Dans cette vidéo, nous allons parler de la manière dont on peut aborder la richesse ou la pauvreté des villes. Le ranking est à la mode et les villes n'échappent pas au phénomène. On les classe pour rendre compte de leur position dans le système globalisé. Les agences de notation évaluent la qualité de l'environnement économique à destination des investisseurs. Tous ces classements façonnent nos représentations des villes et, ce faisant, influencent leur trajectoire. Mais pour autant, dans quelle mesure ces classements nous permettent de saisir la diversité et la réalité du phénomène urbain? Au final, qu'est-ce qui fait la richesse d'une ville? Un classement désormais célèbre est celui de chercheurs de Birmingham qui est établi en fonction de l'importance dans chaque ville des firmes de services aux entreprises, services de haut niveau. Il s'agit des services de comptabilité et d'audit, de publicité, de finance, d'assurance, également de services juridiques. L'hypothèse derrière ce classement, c'est que ces branches de services fournissent l'environnement indispensable au développement de firmes multinationales. Plus elles sont représentées et mieux elles sont représentées par le siège social ou par une succursale importante de la firme, plus on peut estimer que la ville est bien insérée dans la mondialisation. Les anglo-saxons parlent de globalisation, d'où le terme de ville globale. Alors, suivant ce classement du GAWC, en 2012, seule une ville du continent africain fait partie des Alpha World Cities, c'est-à-dire des villes les mieux insérées dans l'économie globalisée. Il s'agit de Johannesburg. S'il peut être discuté, ce type de classement a le mérite de poser les rapports de domination qui existent à l'échelle mondiale et dont les villes constituent un relais essentiel. Ce type de classement permet également bien de poser les rapports de compétition qui existent entre les villes pour capter les investissements économiques et ce, à toutes les échelles. Alors, l'avantage urbain, voire métropolitain, apparaît dès l'échelle régionale. L'examen de la manière dont les villes ont traversé la crise de 2008 est un révélateur particulièrement pertinent de cet avantage urbain. Très clairement, ce sont les grandes aires urbaines qui ont le mieux résisté. Cet avantage urbain, couplé aux effets de localisation, permet de comprendre les différentiels de dynamisme démographique et économique ici des aires urbaines en Bourgogne. Les aires urbaines qui connaissent une évolution positive de la population et de l'emploi, dans le quart en haut à droite du graphique, sont en priorité des aires urbaines de grande taille. On retrouve Dijon, bien sûr, Beaune, Chalon-sur-Saône et Mâcon. Les deux autres aires urbaines, de taille moyenne ou petite, se trouvent prises l'une dans le dynamisme du couloir rhodanien et l'autre sous l'influence de l'agglomération parisienne. Cet avantage urbain ne doit pas masquer ce paradoxe, le fait que la concentration des richesses en ville s'accompagne de fortes inégalités. Le rapport du produit urbain brut, c'est l'équivalent pour les villes du PIB pour les États. Donc le rapport de ce produit urbain brut au nombre d'habitants permet une première appréciation de la richesse produite. Selon ce nouvel indicateur, New York se retrouve derrière Boston ou San Francisco, Paris devance Tokyo et Madrid devance également Mexico. Un deuxième élément d'appréciation de la richesse, c'est la répartition de cette richesse entre les habitants. On mobilise ici un indicateur classique des inégalités, c'est l'indice de Gini. Il mesure l'écart à une situation théorique d'équirépartition. Il vaut zéro lorsque la quantité observée est répartie de manière parfaitement équitable entre les individus. Et à l'opposé, il vaut 1 lorsqu'un seul individu concentre toute la quantité observée, donc dans une situation d'inégalité maximale. L'ONU Habitat a effectué un certain nombre de mesures de la répartition du revenu entre les habitants sur les principales villes du monde. Alors, selon les sources communiquées par les États, ce revenu est tantôt celui déclaré lors des recensements, tantôt celui estimé d'après les dépenses des ménages. On touche ici, à travers ce petit point technique, les limites finalement de l'exercice de comparaison à l'échelle internationale, mais cet exercice comporte quand même un certain nombre d'intérêts. À l'échelle du monde, au final, ce sont les villes sud-africaines qui apparaissent les plus inégalitaires, avec un indice de Gini supérieur à 0,7, 0,67 pour le Cap. En particulier, Johannesburg, la seule ville globale, donc, hein, selon les critères du GAWC, enregistre l'indice d'inégalité maximum de 0,75. Cette très forte valeur illustre, même sous la forme d'un raccourci, les liens paradoxaux qui existent entre le développement économique et les inégalités. À l'opposé, comment interpréter les valeurs les plus faibles ? Bon, il s'agit dans certains cas de villes également pauvres, si on peut dire, c'est-à-dire où le niveau de pauvreté sont considérables. On peut apporter d'autres éléments de nuance. Premièrement, effet de source, les indices relativement faibles, par exemple comme ceux qu'on peut observer à Dakar, un indice de Gini de 0,37, renvoie à un effet de mesure du revenu. Les disparités, l'ONU Indica nous l'indique, les disparités sont moins fortes lorsque le revenu est estimé d'après les dépenses des ménages que lorsqu'il est mesuré à travers les revenus déclarés des ménages, comme c'est le cas en Afrique du Sud. D'autre part, les disparités de revenus modérées peuvent masquer des inégalités très fortes à d'autres niveaux, au niveau du genre par exemple. À Dakar, au début des années 2000, le taux d'alphabétisation des femmes ne valait que 63%, alors qu'il atteignait 90% si l'on considère la population masculine. De la même manière, les villes brésiliennes enregistrent des indices de Gini assez élevés, plus élevés souvent que les villes africaines. Mais derrière ces fortes inégalités de répartition des revenus, on sait bien que l'accès aux services de base concerne une part de la population beaucoup plus importante au Brésil qu'en Afrique. À Brasilia, par exemple, si on s'intéresse à l'arrivée d'eau, 90% des ménages bénéficient de l'adduction d'eau. À Addis Abeba, où l'indice de Gini est à peu près équivalent, 0,61, qu'à Brasilia, seuls les deux tiers des logements disposent d'une arrivée d'eau. Alors, comment mesurer, comment comparer la richesse des villes ? Pour tenter d'intégrer l'ensemble de ces dimensions, l'ONU Habitat propose dans son rapport de 2015 un indice de prospérité, donc pas de richesse, de prospérité, qui intègre six dimensions. La productivité économique, la qualité des infrastructures, alors on retrouve ici les questions relatives à l'eau, la qualité de la vie, on retrouve ici des indicateurs de santé, d'éducation, mais également de criminalité, une dimension liée à l'équité sociale, on va retrouver l'indice de Gini, et puis une cinquième dimension relative aux questions environnementales et une sixième dimension aux questions de gouvernance. Selon cette batterie de critères, où se situent finalement nos villes alpha, nos championnes de la mondialisation ? Au final, dans des positions assez disparates. Si on considère les quatre villes de tête, Paris, en cinquième position dans le panel considéré par l'ONU, Paris devance largement les trois autres villes, New York se retrouvant seulement en 23e position, juste devant Hong Kong. Cape Town, en Afrique du Sud, se situe dans le dernier tiers du classement. Bon, Johannesburg n'est pas intégré au panel, donc on ne connaît pas sa position exacte. Dernier élément, on constate que les premières positions sont occupées, les quatre premières positions sont occupées par des villes d'Europe du Nord. Alors il s'agit d'Oslo, de Copenhague, de Stockholm, d'Helsinki. C'est des villes de taille modeste, moins d'un million d'habitants, comparées à d'autres villes du panel. Alors pour conclure, les géants urbains seraient-ils en cause ? La question n'est pas tranchée entre les partisans d'un soutien aux dynamiques métropolitaines, qui sont les vecteurs indiscutables de la croissance économique, et les partisans d'un soutien, d'une attention plus grande apportée aux villes de rang inférieur, à travers lesquelles l'équilibre serait plus aisé à trouver. Mais au final, le débat est quelque peu faussé. La question urbaine ne se réduit absolument pas à la question sociale. C'est l'inverse, c'est la question sociale qui ne se réduit absolument pas à la question urbaine. Tout n'est pas question que de taille des villes. En revanche, la question sociale se pose incontestablement à l'échelle urbaine. Et les villes, en premier lieu les très grandes villes, peuvent constituer un échelon de décision moteur pour la régulation, voire la réduction des inégalités.